À maman, c'est l'heure. Donc c'est très arbitraire, mais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je commence par vous lire un texte de Saint Bernard. Emmanuel, Dieu avec nous, est descendu pour être près de ceux dont le cœur est en détresse, pour être avec nous dans notre détresse. Si toutefois nous avons soin de l'avoir toujours avec nous comme compagnon de route, lui nous donnera en retour la patrie. Mieux, lui sera la patrie, pourvu que maintenant il soit la route. Il est bon pour moi, Seigneur, d'être dans la détresse, pourvu que tu y sois avec moi. Cela me vaut mieux que de régner sans toi, de festoyer sans toi, d'être sans toi dans la gloire. Pourquoi craindre? Pourquoi faire nos efforts afin de fuir le creuset? Le feu brûle, mais le Seigneur est avec nous dans la détresse. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si c'est aussi lui qui délivre, qui nous ravira de sa main? Qui pourrait nous arracher à sa main? Enfin, si c'est lui qui glorifie, qui nous dépouillera de la gloire? Si c'est lui qui glorifie, qui nous humiliera? De longs jours, je veux le rassasier, répond le Seigneur. C'est dire très clairement, je sais ce qu'il désire, ce dont il a soif et ce qu'il goûte. Non, il ne goûte ni or, ni argent, ni volupté, ni curiosité, car seule la vraie lumière peut le restaurer. Seule la lumière éternelle peut le rassasier, elle dont la durée ne connaît pas de fin, la clarté pas de couchant, la satiété, pas de dégoût. Voilà, j'ai voulu prendre ce texte parce que d'emblée, il nous invite à prendre conscience de la présence du Christ dans nos vies et de la présence du Christ dans tous les états et toutes les situations que nous pouvons connaître, et que ce que nous allons dire aujourd'hui sur ces deux béatitudes soit éclairé par le Christ, sinon nous n'y comprendrons rien. Donc nous avons aujourd'hui deux béatitudes. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, heureux les affligés car ils seront consolés. Je vous avais expliqué en début de parcours que voulant faire une béatitude sur la Vierge Marie, celle qui a cru, et une béatitude sur l'Eucharistie, heureux les invités au repas du Seigneur, j'ai dû en regrouper. Et il m'a semblé que ces deux-là pouvaient être regroupés puisqu'on peut établir un lien entre le cœur pur et les larmes. L'Écriture elle-même, d'une certaine façon, établit ce lien. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux, dit Jésus. C'est-à-dire que les yeux reflètent la lumière ou les ténèbres du cœur. Et déjà dans le prophète, chez le prophète Joël, on trouve cette phrase « Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, renonçant au châtiment. » Donc il y a bien un lien entre cette pureté de cœur qu'il faut que nous retrouvions et les larmes. Et je dois dire que j'étais assez embarrassé pour préparer cette intervention parce que finalement, j'avais beaucoup plus de choses à dire, beaucoup trop de choses à dire pour ce qui rentre dans le cadre de cette rencontre. Déjà, d'habitude, j'en ai trop à dire, alors aujourd'hui, c'est encore pire. Je ne vous signalerai pas les différences de traduction comme je le fais d'habitude parce qu'elles sont assez semblables les unes aux autres. Je vous signalerai juste, comme à chaque fois, celle de Chouraki, parce que celle-là est assez différente des autres. En marche les cœurs purs, oui, ils verront Elohim. En marche les endeuillés, oui, ils seront réconfortés. Ou bien l'équivalent chez Saint-Luc. En marche les pleureurs de maintenant, oui, vous rirez. Et voilà le plan que je vous propose. Dans une première partie, réfléchir sur ce que l'Écriture nous dit du cœur et en quoi notre cœur aurait-il besoin d'être purifié. Dans une deuxième partie, contempler le Christ, parce qu'il me semble que c'est à la lumière de sa vie, de ce qu'il dit, de ce qu'il a vécu, que nous pourrons ensuite parler de la troisième béatitude, enfin de la deuxième béatitude, les affligés. Donc ce qu'on peut dire sur la souffrance, sur les afflictions, ne peut se comprendre qu'à la lumière de ce que le Christ en dit et en fait. Donc en deuxième partie, ce sera le Christ qui a le cœur pur et qui console. En troisième partie, nous reprendrons « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Et dans une quatrième partie, nous reviendrons sur les promesses que nous fait Jésus de voir Dieu et d'être consolés. Grand 1, avoir un cœur pur. Et toucher au cœur, dans la Bible, c'est toucher à tout l'homme. Toucher le cœur, c'est savoir ce qu'est l'homme dans son entier. Dans notre façon de parler aujourd'hui, le cœur évoque plutôt le siège de la vie affective. Mais dans la Bible, l'hébreu conçoit le cœur comme le dedans de l'homme en un sens beaucoup plus large. En plus des sentiments, le cœur contient aussi les souvenirs et les idées, les projets et les décisions. Avoir le cœur large, c'est signifie l'étendue du savoir. Avoir du cœur, c'est assumer ses responsabilités. Et finalement, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le cœur est le lieu où l'homme rencontre Dieu, rencontre qui devient pleinement effective dans le cœur humain du Fils de Dieu. Et lorsque Dieu a façonné l'homme, à l'origine, on peut dire que l'homme est très bon, puisque le cœur de l'homme, est parfaitement pur. L'homme a un cœur intelligent, comme dit l'Écriture, pour comprendre le mystère de Dieu, et il a un cœur aimant pour aimer Dieu et pour aimer la compagne que Dieu va mettre en vis-à-vis de lui. Mais le cœur, c'est une réalité intérieure qui se soustrait au regard et donc que l'on peut deviner que par le visage que l'on va montrer. Notre visage va montrer notre cœur. Le Siracide dit « Le cœur de l'homme modèle son visage soit en bien, soit en mal. » Ou bien ce qui va révéler notre cœur, ce sont les mots qui sortent de notre bouche et ce que disent nos lèvres. Et tout va bien tant que le cœur de l'homme reste tout entier à Dieu. Il est alors unifié et transparent. Ça veut dire que l'homme accepte sa dépendance vis-à-vis de Dieu et que cette relation de dépendance le mettant en vérité dans son être, il est avec le cœur pur. Et tout change lorsque, au chapitre 3 de la Genèse, avec l'apparition du plus rusé de tous les animaux, c'est-à-dire le serpent va chercher à éloigner l'homme de Dieu, à lui faire désirer une indépendance par rapport à Dieu. Vous serez comme des dieux, et on sait ce qu'il en est advenu. C'est évidemment une promesse faite par celui qui est le père du mensonge. Résultat, le cœur de l'homme a changé, et l'Écriture parle d'un cœur double, d'un cœur partagé, d'un cœur rempli de malice, d'un cœur tortueux, d'un cœur dur. Et on sait que le soir de Pâques, Jésus reprochera par exemple aux disciples d'Emmaüs d'avoir un cœur sans intelligence, lent à croire. Bref, le cœur de l'homme est devenu compliqué et malade, il a un cœur mélangé et impur. Et nous comprenons qu'à travers le cœur, puisque c'est le centre de toute la personne, c'est toute notre personne qui est atteinte par la désobéissance de nos premiers parents. L'homme est blessé dans ses facultés. Il était pur, unifié et ordonné, et maintenant il est impur, éclaté et désordonné. Et notre combat intérieur consiste, comme dit saint Paul, à fortifier l'homme intérieur. Et saint Jacques recommande, homme partagé, purifiez vos cœurs. C'est-à-dire que l'homme peut maintenant avoir la possibilité de dissimuler son cœur. Au lieu de le dévoiler, son regard ou ses paroles peuvent aussi bien exprimer le mensonge. L'homme a la redoutable possibilité de se faire double, dit le vocabulaire de théologie biblique, c'est-à-dire ce livre qui analyse le sens des mots dans la Bible. Ouvert à Dieu sur l'infini, où il peut jouir d'un bonheur infini dans sa rencontre avec Dieu, l'homme s'est renfermé sur lui-même, a replié son cœur aux limites terrestres, rabaissant son bonheur au plaisir de jouir de choses créées, mais gardant une ressemblance avec Dieu, il est fait pour l'éternité, pour l'infini. Donc l'homme a rapetissé son bonheur au niveau des choses créées, et on comprend qu'il puisse être en permanence insatisfait, parce que les choses créées ne peuvent pas satisfaire sa soif d'absolu et d'infini. Le père Cantalamessa écrit « Il y a eu dès le commencement un choix de l'homme rendu possible par sa liberté et sa nature même faite d'esprit et de matière, qu'il a porté à orienter exclusivement vers les choses visibles son irrépressible désir de joie dont il avait été doté pour pouvoir jouir du bien infini qui est Dieu. » Et nous sommes confrontés à la plus grande souffrance de l'homme, même s'il n'en a pas conscience, c'est d'avoir abîmé ou d'avoir perdu sa relation avec Dieu. Deuxièmement, dans ce grand un, la parole du psaume « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ». Cela nous amène donc à voir ce qui a été blessé dans le cœur de l'homme, ce qui a changé dans sa vie. Petit a, existence d'une moi naturelle. En quel sens faut-il comprendre le mot « pureté » La réponse est moins aisée qu'il n'y paraît, et on ne peut pas répondre à cette question en donnant au mot le sens qu'on lui donne aujourd'hui, alors que Jésus l'employait dans un autre sens il y a 2000 ans. Ce mot a pris à notre époque, trop facilement et presque exclusivement, une connotation d'ordre sexuel, pureté ou impureté sexuelle. Mais surtout de grâce, même aujourd'hui, ne réduisons pas la pureté de cœur simplement à l'absence de désir charnel. Parce que si notre pureté se résume à l'absence de désir charnel, notre cœur s'assèche complètement. Gilbert Sesbron met en garde « Lorsque cette pureté physique n'est qu'absence de désir, elle risque de dessécher le cœur et d'entraîner une périlleuse absence de sympathie. » Et le père Carré va dans le même sens, c'est toujours un peu les mêmes que je vous cite. « Sur ce genre de péché, les péchés charnels, l'accent a été souvent mis de façon excessive, au point que beaucoup de chrétiens sont plus préoccupés finalement de ne pas les commettre que de croître dans la charité de Jésus-Christ. » Et le père Carré ajoute une deuxième mise en garde. « Pourtant ne traitons pas à la légère ce que dans un monde dominé par la luxure, tant d'hommes et de femmes, complices de leurs tentations, considèrent tout au plus comme des faiblesses. Lors du jugement suprême, nous apprendrons combien d'échecs spirituels, de stagnation dans la médiocrité, combien de reniements n'ont pas d'autre cause. Ne vous y trompez pas, s'écrit saint Paul, ni impudiques ni adultères n'hériteront du royaume de Dieu. Cependant l'apôtre ajoute, mais vous, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Et s'il est vrai qu'à notre époque, le péché sexuel, dans sa dimension d'impureté, tient dans la vie des gens une grande place, ou en tout cas au moins dans leur esprit, et il est possible que dans leur esprit, ils accentuent encore la place que ça tient réellement, cela provoque un déséquilibre vers la dimension morale de notre existence, au détriment de sa dimension théologique. Et ça me paraît très important, et je voudrais un tout petit peu développer ça, c'est ce que le pape François dénonce, a souvent dénoncé au début de son pontificat, dans l'avion qu'il emmenait, je crois, au Brésil. Vous savez, il a été interrogé à propos des homosexuels, et il a dit, mais les homosexuels, leur identité, c'est pas d'être homosexuel. Et si on a cette vision-là, effectivement, on réduit notre vie à sa dimension morale, alors que notre vie est beaucoup plus grande et beaucoup plus belle que ça. Nous vivons en effet dans une société qui, durant des siècles, a admis comme référence, comme règle de vie commune, les 10 commandements. Cette façon de vivre a marqué en profondeur la culture des peuples qui ont fait ce choix, mais contrairement à ce que prétendent certaines personnes, les 10 commandements, ce n'est pas la morale judéo-chrétienne. Sous-entendu, ceux qui ne sont pas concernés par le judaïsme ou par le christianisme ne sont pas concernés par les 10 commandements. Ces 10 commandements, ils sont inscrits dans le cœur de l'homme, ils sont perceptibles par la conscience de l'homme, présents en chacun, quelle que soit sa religion, sa culture ou son absence de religion. Et c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Il y a donc des règles communes à toute l'humanité sans exception. Quand Moïse donne les 10 commandements au peuple hébreu, il lui dit « Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ton atteinte, elle n'est pas dans les cieux ou au-delà des mers, comme quelque chose qui ne serait pas à ta portée. » Ces paroles, car la parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Les 10 commandements dans leur matérialité ne font que réveiller en écho ce que Dieu a inscrit dès le commencement dans le cœur de l'homme et de la femme. Or, depuis quelques décennies, on a voulu faire tomber ces barrières, entre guillemets, qui forment le cadre à l'intérieur duquel l'homme évoluait. Et en agissant ainsi, ceux qui agissaient ainsi pensaient libérer l'homme de ses carcans. Et on a pu dire très schématiquement qu'avant mai 68, il y avait un cadre et que l'homme vivait à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre. Donc il savait où il en était, mais il pouvait se repérer. Et mai 68 a enlevé le cadre, ce qui fait que l'homme ne sait plus où il évolue par rapport à un cadre qui est inexistant. Au moins le cadre, qui était reconnu par tous, me disait « je suis dans le bien si je suis à l'intérieur, je suis dans le mal si je suis à l'extérieur ». En enlevant le cadre, on a enlevé les points de repère. Alors on a pensé rendre un service à l'homme en élargissant sa liberté. Mais l'homme continue à garder sa conscience. Donc on a beau lui dire « maintenant on a décrété que le bien serait mal ou que le mal serait bien », on a beau me dire que ça c'est bien, ma conscience continue à me dire que ça c'est mal. Et donc au lieu de me libérer, on a provoqué en l'homme un profond malaise. Alors qu'il évolue dans une société très érotisée, il sait bien que tout ne lui est pas bon. Comme le dit saint Paul, tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable. Je pense qu'il faut qu'on médite beaucoup aujourd'hui cette phrase de saint Paul pour l'éducation des enfants. Il y a des choses qui sont permises parce que la société a perdu des points de repère et qui sont mauvaises, mais même parmi les choses permises qui ne seraient pas forcément mauvaises, tout n'est pas profitable. La liberté nous est donnée pour que nous puissions faire ce qu'on nous propose. Est-ce qu'elle nous est donnée pour faire ce qu'on nous propose ou bien pour accomplir ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait, comme dit saint Paul. Et voilà le malaise. On met tout à notre portée, on érotise notre société, on y dit tout est permis, et pourtant on sait bien à l'intérieur de nous-mêmes que tout n'est pas bon et que tout n'est pas permis, et il y a ce malaise intérieur avec lequel je me retrouve face à moi-même. Et il n'est pas surprenant que notre société contribue à faire que nous exagérions pour nous-mêmes cette dimension de la pureté au niveau sexuel. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'on a considérablement réduit la beauté de notre existence. Le grand danger est que l'homme ne se caractérise plus lui-même que par ce qu'il a fait, par ses chutes, et en particulier dans le domaine de l'impureté sexuelle. Il se réduit alors à ce qu'il a fait de mal, et c'est sa dimension morale. Il a honte de lui-même et en vient parfois à ne plus s'aimer lui-même. Il en oublie que sa vie est beaucoup plus belle et beaucoup plus grande que cela. C'est sa dimension théologale. La vie morale se borne à ce que l'homme fait, en bien ou en mal. La vie théologale s'élargit à ce que Dieu fait en l'homme. Par la vie théologale qui intègre les trois vertus de foi, d'espérance et de charité, l'homme avance au large. Et une vertu théologale, c'est une vertu qui a sa source en Dieu, que nous ne trouvons pas dans la nature, et que Dieu veut déverser dans le cœur de l'homme pour rendre l'homme capable de vivre comme Dieu. Donc nous avons une sympathie ou un amour naturel, ça n'est pas la charité. Et nous avons ce surcroît d'amour, qui est la vertu théologale de charité, qui nous permet, si on le reçoit, qui permet à Jésus de dire « Aimez-vous les uns les autres, comme moi, Jésus, le Fils de Dieu, je vous ai aimé, ce qui vous est impossible, mais ce que je viens rendre possible en vous, puisque je viens déverser dans votre cœur la charité. » Une vie théologale peut être beaucoup plus lumineuse, malgré des chutes morales, qu'une vie morale qui serait irréprochable, mais sans jaillissement divin. Le cardinal Danielou avait fait remarquer un jour, « On rencontre même certains hommes déchirés par des drames intérieurs très profonds qui éveillent au sens de Dieu. Cela m'a souvent frappé. On voit au contraire des hommes d'une moralité parfaite qui ne suscitent aucun appel. Ils sont davantage témoins de ce dont l'homme est capable, c'est-à-dire de la vertu, que de ce dont Dieu est capable en lui, c'est-à-dire de la sainteté. » Et finalement, en filigrane de notre rencontre d'aujourd'hui, on verra que ce qui est en jeu, c'est vraiment la sainteté. Et que la sainteté, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus beau que simplement être vertueux. Chesterton pose un diagnostic et propose un remède. L'humanité est déséquilibrée à l'endroit du sexe, et la santé ne lui est permise que dans la sainteté. Donc, nous l'avons compris, la pureté de cœur dont il s'agit dans notre béatitude est beaucoup plus large que simplement la dimension de la pureté sexuelle. Le cœur de l'homme étant au centre de toutes ses activités, ce sont toutes ses relations envers Dieu, envers le prochain et envers lui-même qui sont concernées par cette pureté de cœur. C'est-à-dire mon comportement en général, le bien que je vais faire, le mal que je vais chercher à éviter ou le mal que je n'aurai pas fait. La droiture d'intention, tout ce qui... Vous savez, quand on dit le cœur mélangé, c'est vous avez une petite mare et puis on a secoué. Et donc toute la boue qui était reposée au fond rend l'eau opaque et il faut laisser reposer. Dans notre vie, dans notre comportement, nous avons un cœur mélangé, c'est-à-dire qui mélange les intentions. Je fais le bien, mais avec l'intention d'être remarqué, qu'on dise du bien de moi, etc. C'est-à-dire que j'ai le cœur impur au sens très large. Monseigneur Lustiger explique. Mais les prophètes comme Isaïe et Jérémie ont souligné avec insistance que ces rites de purification extérieure n'avaient de sens que s'ils accompagnaient une purification intérieure, spirituelle, et traduisaient une pureté de cœur, c'est-à-dire de l'intention et de l'orientation de tout l'être. Jésus le rappelle avec force, « Purifie d'abord le dedans de la coupe pour que le dehors aussi devienne pur. » Avoir le cœur pur, c'est, négativement, être débarrassé de toute pensée contraire à la volonté divine. Projet homicide, blasphème, orgueil, désir de possession, bref, tout ce par quoi l'homme se fait idolâtre et rend un culte à des réalités dont il devient prisonnier et qui prennent la place de Dieu. Avoir le cœur pur, c'est, positivement, se rendre disponible non seulement par des pratiques rituelles extérieures, mais encore et surtout par un retournement de tout son être et de sa liberté au plus profond de soi-même, afin de pouvoir pénétrer dans le Saint des Saints, où Dieu se donne à voir à ceux qu'il choisit et appelle. Petit C, je ne sais pas si je vous avais indiqué un A et un B. Oui, oui, alors petit C, le Christ est le médecin de nos cœurs malades. Il y a donc des désordres dans le cœur de l'homme. L'homme réclame de l'aide pour ordonner à nouveau sa vie. L'homme est malade et il a besoin d'un médecin. N'y a-t-il aucun médecin ? Demande le prophète Jérémie. Et le Christ apporte la réponse. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et le cœur de l'homme est principalement malade de ses péchés et de ses conséquences, de ses désordres et de sa dispersion. Le Christ est celui qui vient faire ce que seul Dieu peut faire, remettre les péchés. Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. Et le Christ, en disant ça, n'usurpe pas un pouvoir divin qu'il n'aurait pas, il use de ce pouvoir divin parce qu'il est Dieu. Et ce qu'il a dit au paralytique, il l'a dit un autre jour à Zachée, un autre jour à la femme adultère, et il l'a dit un jour, de façon universelle, pour que chacun entende la parole lorsqu'il meurt sur la croix, « Père, pardonne-leur », pour que chaque homme et chaque femme jusqu'au dernier puisse entendre pour lui et se sentir concerné par cette phrase de Jésus, « Père, pardonne-leur ». Et nous avons vu comment, en méditant la béatitude sur la miséricorde, le Christ nous obtient ce pardon. Et lorsque le Christ purifie, il ne se contente pas d'enlever les tâches qui salissent notre âme, ce qui est déjà une grosse part de l'œuvre du salut, il nous donne la force de ne pas recommencer, « Va et ne pêche plus », dit-il à la femme adultère. Et il aide l'homme à remettre de l'ordre dans sa vie. Dieu, qui n'est pas un Dieu de désordre, dit saint Paul, soutient l'homme dans sa lutte, et on se souvient de cette parabole, « Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre dans des lieux arides en quête de repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je vais retourner dans ma demeure d'où je suis sorti. » Étant venu, il la trouve libre, balayée, bien en ordre. » Voilà, le Seigneur nous aide à remettre de l'ordre, à refaire l'unité de notre vie. L'homme faisait la triste expérience de voir son cœur blessé, incapable d'aimer Dieu, d'aimer son prochain et de s'aimer soi-même. Et le Christ vient restaurer le cœur de l'homme. Il va résumer tout son enseignement par ces deux commandements qui regroupent les trois amours. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et non seulement il renouvelle le commandement, mais il l'élargit, il lui donne une mesure divine, tu le feras comme moi je l'ai fait à mon image. Et il nous donne de le réaliser, demeurez en mon amour comme moi je demeure dans l'amour de mon Père. Donc heureux en effet ceux qui s'approchent du Christ pour être purifiés par lui. Je voudrais maintenant aborder le mystère du mal qui est celui de la deuxième béatitude, mais je ne peux pas le faire sans parler du Christ. Donc la deuxième grande partie, c'est « Mettez-vous à mon école ». Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ, et donc il est légitime que Jésus puisse nous dire « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur ». Et le Christ nous enseigne par ses paroles, il nous enseigne par chacun de ses gestes, par toute sa vie. Qu'est-ce que le Christ est venu nous révéler ? L'amour de Dieu. Alors, c'était déjà commencé dans l'Ancien Testament, mais il y a un accomplissement dans le Christ. Dieu, le Père, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Fils unique a tellement aimé les hommes qu'il a donné sa vie pour eux. Et c'est ce même Jésus qui dira plus tard à Sainte Marguerite Marie, à Parelmonial, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour, et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. » Premièrement, dans ce grand 2, Jésus est l'école de l'amour. Petit a, Jésus dit l'amour. C'est vrai à chacune de ses phrases, même quand il se met en colère, même quand il dit une parole peu aimable, c'est une manifestation de l'amour de quelqu'un qui, connaissant le cœur de chacun, sait comment il doit s'adresser à chacun. Et il invite les hommes à répondre à cet amour. C'est chaque instant de sa vie, Marie-Noël dit, ce n'est pas un travail vite fait que d'aimer. Et cet amour a poussé Jésus jusqu'au bout, jusqu'à l'acceptation des plus grandes souffrances physiques et morales qu'un homme puisse supporter. Jésus est-il l'homme qui a le plus souffert humainement? Il n'est pas possible de répondre à cette question puisqu'il n'y a pas de machine pour mesurer l'intensité de la douleur physique que les uns et les autres peuvent ressentir. Ce qui est sûr, c'est que l'Évangile nous dit que lorsque Jésus est entré dans sa passion au Jardin des Oliviers, il a transpiré, en pensant à ce qui allait advenir dans les heures qui viennent, il a transpiré des sueurs de sang, en pensant à l'intensité de la douleur qu'il allait supporter. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus est celui qui a moralement le plus souffert, parce qu'il a souffert dans une âme totalement innocente. Non seulement des fautes dont on l'accuse, mais de toute faute personnelle. À aucun moment, Jésus n'a accentué le poids de péché de l'humanité. Il est même reconnu comme étant celui qui est véridique, et celui qui passe en faisant le bien. Le Père Cantalamessa explique « Il est une passion de l'âme du Christ qui est l'âme de la passion, ce qui lui confère sa valeur unique et transcendante. D'autres ont souffert les tourments corporels qu'a subi Jésus, et peut-être même de plus pénibles. En tout cas, il est certain que du point de vue physique, la somme des douleurs subies par tous les hommes au long de tous les siècles forme une masse plus grande que celle de Jésus, prise telle qu'elle, mais d'autre part, la somme de toutes les peines et les angoisses des hommes n'atteindra jamais, même de loin, la passion de l'âme du Rédempteur. » Petit b, Jésus aime jusqu'à la croix. Cet amour le conduit donc à la croix sur laquelle il meurt pour nous tous. Lui, l'innocence, est substituée à nous qui étions coupables. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a traité en pécheur en notre faveur, afin que par son intermédiaire nous devenions justice de Dieu, explique saint Paul. Et sainte Catherine de Sienne explique souvent, c'est l'amour qui a fixé le Christ sur la croix et non les clous. Donc il nous sauve par son amour, et pas par la souffrance, mais il nous sauve par un amour qui va jusqu'à accepter la souffrance. Et en quelques heures, Jésus va faire dans sa propre chair l'expérience d'un concentré de souffrance physique et morale. Et il rejoint chaque personne qui souffre, et il souffre pour elle, et il souffre avec elle. Le Christ aurait pu sauver les hommes par un clignement d'œil, dit saint Augustin. Et il a voulu être solidaire des hommes qui souffrent et qui meurent. Il y a une délibération trinitaire qui ne se fait pas en cours de route. Quand Dieu s'aperçoit que l'homme a désobéi, il faut adapter un plan B. Quand il a créé, il avait délibéré de tout ce qui allait se passer à l'avance. Et donc dans cette délibération trinitaire, il a été prévu par quel moyen le Fils de Dieu sauverait, ou par quel moyen la Trinité sauverait l'homme. Le Père acceptait d'envoyer son Fils, et le Fils acceptait de mourir de cette façon-là pour montrer à l'homme ingrat à quel point il était aimé et le prix que nous avions pour lui. Si Dieu avait claqué des doigts, l'homme se serait dit, on lui coûte pas cher, c'est assez facile, donc notre péché ne blesse pas tant l'amour de Dieu que ça. Mais pour être capable de descendre jusqu'au niveau où nous étions tombés, il a fallu que Jésus nous rejoigne dans la souffrance et dans la mort, sans faire semblant, comme l'ont dit certains, mais réellement dans sa chair. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé, confie-t-il à Saint Angèle de Foligno. Il pousse l'amour jusqu'à aimer, au cœur même de la souffrance, ceux par lesquels il souffre et meurt, et pour lesquels il souffre et meurt. Deuxièmement, Jésus est l'innocent qui voit le Père. Dans ce paragraphe-là, je voudrais montrer que Jésus est le premier à vivre la béatitude. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tout l'évangile et dès l'enfance de Jésus nous montre cette relation de Jésus avec son Père. Jésus a parfaitement conscience dès le premier instant qu'il est Dieu. C'est nous qui en prenons conscience au fur et à mesure que Jésus le dévoile, parce que notre intelligence est limitée, mais il est faux de dire que Jésus en prend conscience petit à petit au fur et à mesure que les événements se déroulent. Jésus sait très bien, et à l'âge de 12 ans, il le dit lorsqu'il est allé parler au docteur de la loi, « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ?» Joseph, qui est là, comprend très bien que le père dont il s'agit, ça n'est pas lui, mais que c'est son père du ciel. Et que Jésus a parfaitement conscience d'être le fils de Dieu. À chaque instant, le Fils voit le Père. Et quand Jésus, à plusieurs reprises dans l'Évangile, se met à l'écart pour prier, qui passe la nuit à prier, il s'installe dans ce face-à-face avec son Père, dans ce cœur-à-cœur avec lui. Il y a ce moment sur la route où Jésus, tout d'un coup, s'exclame, touché par l'Esprit Saint, « Père, je te rends grâce. » Voilà. Il n'y a pas un instant où la relation entre les trois se distend. En permanence, il est en communion avec son Père et il le voit. Si bien que c'est en vérité que Jésus peut répondre à Philippe, « Montre-nous le Père. » Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis le reflet authentique, parfaitement pur, de la divinité du Père que personne ne peut voir. Il y a un moment où Jésus a révélé cette divinité, nous l'avons entendu dimanche dernier, c'est sur le Tabor, lorsque sa divinité, qui était jusque-là voilée par son humanité, a resplendi. Les apôtres sont un peu tombés en arrière, effrayés. Et le Père cautionne la divinité de son Fils, cautionne la pureté de cœur de Jésus, en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc il n'y a rien entre Jésus et son Père qui puisse faire obstacle. Donc tout ce que Jésus nous dit, c'est le Père qui nous le dit. Mais la question peut se poser, à un moment précis de la vie de Jésus, dans sa passion, lorsqu'au cœur même de la souffrance sur la croix, Jésus pousse ce cri « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Est-ce qu'à ce moment-là, Jésus, qui a évidemment encore le cœur pur qui n'a pas été contaminé, est-ce qu'il voit encore le Père? Et je vous lis ce que Jean-Paul II écrit, mais lui, à la suite finalement de la tradition de l'Église et des grands mystiques, dans son texte au début du troisième millénaire. Chers frères et sœurs, le cri de Jésus sur la croix n'exprime pas l'angoisse d'un désespéré, mais la prière du Fils qui offre sa vie à son Père dans l'amour pour le salut de tous. Au moment où il s'identifie à notre péché, abandonné par son Père, entre guillemets, il s'abandonne, entre guillemets, entre les mains de son Père. Ses yeux restent fixés sur son Père. C'est bien en raison de la connaissance et de l'expérience que lui seul a de Dieu que, même en ce moment de ténèbres, il voit de manière limpide la gravité du péché et qu'il souffre pour lui. Lui seul, qui voit son Père et en jouit pleinement, mesure en plénitude ce que signifie résister par le péché à l'amour du Père. Avant d'être une souffrance pour son corps et à un degré beaucoup plus élevé, sa passion est une souffrance atroce pour son âme. La tradition théologique n'a pas manqué de se demander comment Jésus pouvait vivre en un même temps l'union profonde avec son Père, qui est par nature source de joie et de béatitude, et l'agonie jusqu'au cri de l'abandon. La présence simultanée de ces deux éléments apparemment inconciliables est en réalité enracinée dans la profondeur insondable de l'union hypostatique. L'union hypostatique, c'est-à-dire que dans la personne du Verbe, du Christ, du Fils de Dieu, on peut dire qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Donc il ressent tout ce que Dieu sent et il ressent tout ce que l'homme vit à l'exception du péché. Donc au plus profond de sa souffrance et de sa douleur, lorsqu'il fait l'expérience la plus forte qui ne sera jamais vécue dans l'histoire de l'humanité, de ce que peut faire le péché dans l'âme humaine et combien il peut éloigner et couper de Dieu, qui lui fait, dans sa sensibilité humaine, pousser ce cri « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En cet instant encore, Jésus voit le Père. Voilà. Et plus loin, le paragraphe suivant, ça c'était le paragraphe, si vous voulez relire, 26 du texte au début du troisième millénaire. Et au paragraphe 27, Jean-Paul II cite deux mystiques qui disent « Je comprends très bien ce que Jésus voit parce que moi, Sainte-Thérèse en particulier, elle dit « Je comprends d'une certaine manière, à ma mesure, j'ai fait la même expérience. » Donc avec toute l'Église, nous pouvons dire que Jésus est le bienheureux qui n'a pas cessé de voir Dieu son Père. De son cœur ouvert sur la croix, l'humanité reçoit la guérison et la consolation, Mgr Lustiger écrit, du seul cœur véritablement pur sortent ainsi le sang et l'eau qui purifient les cœurs des baptisés et leur donnent de voir Dieu déjà, ou du moins de le reconnaître en ce monde dans la figure scandaleuse du Messie crucifié pour le salut de tous les hommes. C'est très paradoxal. Le centurion qui est là au pied de la croix, alors qu'il n'a plus figure humaine, qu'il vient de mourir, au-delà de la mort, le centurion est capable de dire « celui-ci était le Fils de Dieu ». Troisièmement, dans ce grand 2, Jésus est aussi celui qui console. Petit a, consolation par la rémission des péchés. Les prophètes dans l'Ancien Testament préparent le peuple à recevoir de Dieu le meilleur de ce que Dieu veut leur donner, et qu'il donnera gratuitement aux hommes. Le meilleur, c'est la consolation pour la plus grande tristesse, celle que provoque le péché. Ainsi, le prophète Isaïe, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. » Et le même Isaïe décrit cette figure du serviteur souffrant qu'on identifiera à Jésus. Il est mort pour nos péchés, lui l'innocent a été chargé d'une faute qu'il n'a pas commise, etc. Isaïe 52, verset 12, jusqu'au chapitre 53, verset 13, quatrième chant du serviteur, celui qu'on a dans notre liturgie le vendredi saint. Le vieillard Siméon, entrant au temple, tenant l'enfant Jésus dans ses bras, peut voir dans l'enfant Jésus la consolation d'Israël. Nous voyons en effet et nous recevons de Jésus notre consolation. En quoi consiste-t-elle, Mgr Lustiger? Cette consolation est bien réelle, c'est le don de la vie en plénitude sur laquelle la mort n'a plus de prise. Et ce don est l'œuvre de l'Esprit Saint, le Consolateur. Il s'agit d'éprouver spirituellement, autrement dit très réellement et concrètement, même si ce n'est pas physiquement ni matériellement, le poids du péché et du mal qui défigure le monde. Or ce n'est pas une sympathie éphémère qu'apporte Jésus, mais la délivrance, la rédemption. Voilà, je saute. Petit b, consolation pour ceux qui pleurent. C'est bien dans la croix et l'amour qui s'y manifestent que les hommes trouvent la consolation pour leurs souffrances. Plus jamais celui qui souffre ne doit se trouver seul. Il y a une bonne nouvelle à lui annoncer, un autre souffre avec lui, le porte dans son épreuve, soulage le poids qui charge ses épaules et son cœur. Et on comprend très bien la révolte que certains peuvent éprouver. Le philosophe Camus justifie son athéisme précisément à cause de la souffrance, et en particulier de la souffrance des enfants dans les hôpitaux. On comprend très bien que l'homme puisse se révolter, et que dans sa révolte, il puisse s'en prendre à l'être qu'il pense être au-dessus de lui, regarder vers le ciel, et peut-être même tendre le poing vers le ciel. Mais depuis que Jésus est mort sur la croix, entre la terre et le ciel, en s'adressant à celui qui est au-dessus de lui, il verra dresser la croix et il verra Jésus sur la croix. Et donc la réponse à ce scandale, c'est un autre scandale qui reste silencieux, de Jésus sur la croix. Injustice suprême que Dieu assume à son détriment pour que nous soyons reconnus justes par le Père, et aussi pour que dorénavant notre souffrance, nos épreuves aient un sens. Je voulais juste, avant de commencer la troisième grande partie qui porte sur la souffrance, ces petits vers de Victor Hugo, que Victor Hugo avait écrit au pied d'un crucifix. « Vous qui pleurez, venez à Dieu car il pleure. Vous qui souffrez, venez à lui car il guérit. Vous qui tremblez, venez à lui car il sourit. Vous qui passez, venez à lui car il demeure. » Alors, dans ce grand 3, heureux de pleurer, point d'interrogation, on aborde la question redoutable de la souffrance. Souffrance au sens large, parce que la béatitude de saint Matthieu, il parle de « heureux les affligés » sans dire en quoi consiste cette affliction. Et l'équivalent chez saint Luc, c'est « heureux ceux qui pleurent » sans que Luc nous donne les motifs de ses larmes. Donc on peut supposer très largement. Avec humour, Gilbert Cesbron précise « bienheureux ceux qui pleurent, mais pas ceux qui larmoient ». La sensiblerie, l'attendrissement et l'apitoiement ne sont que les bâtards de la sensibilité, de la tendresse et de la pitié. Ils font aussi partie de notre panoplie de pleureuses. Premièrement, redoutable question de la souffrance. C'est redoutable parce que seul celui qui a souffert devrait pouvoir parler de la souffrance. Donc je vais m'arrêter là puisque je n'ai pas souffert. Tout le monde connaît ce mot que le cardinal Veuillot, qui était archevêque de Paris, qui était malade d'un cancer, sur son lit d'hôpital a fait transmettre au prêtre de Paris. Ne parlez jamais de la souffrance si vous-même vous n'avez pas souffert. La bonne volonté ne suffit pas dans ce domaine. Le cardinal Marty, qui a succédé immédiatement au cardinal Veuillot en 68, raconte cette anecdote où, quand il était jeune vicaire dans un des villages du Rouergue où il était, va voir un vieux monsieur qui est très malade, lui sort toutes les belles phrases qu'il a apprises au séminaire, lui fait un beau discours sur la valeur de la souffrance, etc., etc., et qu'on avait de la chance de souffrir. Le monsieur l'écoute très gentiment, il reste en silence, et puis l'abbé Marty continue son discours, et tout d'un coup, la personne âgée, le malade, se tourne vers lui et lui dit « Vous voulez ma place ?» Et l'abbé s'est tu, donc il avait compris que les mots sont maladroits. Job, déjà avant, s'était plaint. « Que de fois ai-je entendu de tels propos, et quel pénible consolateur vous faites ? Y aura-t-il une fin à ces paroles en l'air, et quelle maladie que ce besoin de répondre ?» Alors, il ne s'agit pas de faire un traité sur la souffrance, mais d'essayer de réfléchir comment Jésus peut-il associer ces mots « bienheureux les affligés ». L'affection n'est-elle pas précisément dans l'esprit des gens l'expression du malheur, et donc qui s'oppose au bonheur ? Et la promesse d'une consolation à venir est-elle suffisante pour trouver sa joie dans les souffrances présentes ? Donc, je marche sur des œufs, mais je voudrais quand même, sinon je pense qu'il ne servait à rien de traiter de cette béatitude, je voudrais réfléchir avec vous. Commençons par cette remarque de Mgr Lustiger. Cependant, le bon sens pousse à répliquer « Seigneur, si tu peux me réconforter, pourquoi ne pas commencer par m'épargner d'être affligé ?» L'objection est recevable. Après tout, Jésus lui-même à Gethsémani demande « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Alors, que peut bien signifier cette béatitude ? Y aurait-il donc une affliction qui serait paradoxalement source de bonheur ? Commençons par dire que Dieu n'aime pas la souffrance, mais qu'en envoyant son Fils sur la terre pour sauver les hommes, puis en envoyant ensuite l'Esprit qu'on appelle le Consolateur, le Christ n'a pas guéri toutes les maladies qu'il a rencontrées et qu'il n'a pas séché toutes les larmes qu'il a vues être versées. Mais il a instauré le lieu ultime de toute guérison, sa croix et son tombeau ouverts. Petit a, Dieu n'a fait ni le mal ni la souffrance. Le livre de la Sagesse est, je crois, le plus récent dans l'Ancien Testament par rapport à nous. Il est dans les années 70, je crois, avant Jésus-Christ. Et le sage réfléchit, Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de la perte des vivants. Et nous devons donc continuer à dire que la souffrance, le mal et la mort sont des réalités mauvaises et scandaleuses. Au ciel, il n'y aura plus de souffrance et au ciel régnera la vie éternelle sans qu'il n'y ait plus aucune mort. Le sage poursuit sa réflexion. Dieu a créé l'homme incorruptible, il en a fait une image de sa propre nature, c'est-à-dire un être fait pour aimer et être aimé, et donc un être libre. Sans rien imposer, Dieu a proposé à l'homme une existence de communion et d'amour avec lui, et l'homme a préféré écouter la voix du séducteur, le père du mensonge. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde, conclut le sage. Et donc avec la mort, tous les dérèglements qu'elle provoque. Si nous devons donc reprocher quelque chose à Dieu, ce n'est pas d'avoir fait la souffrance et le mal, puisqu'il ne l'a pas fait. Dieu vit que cela était bon et Dieu vit que cela était très bon. Il n'est sorti de ses mains que des choses bonnes. S'il y a un reproche à faire à Dieu, c'est d'avoir créé l'homme libre. Au problème de l'existence du mal, le catéchisme de l'Église catholique répond à cette question aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse. Aucune réponse rapide ne suffira. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché, l'amour patient de Dieu qui vient au-devant de l'homme par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils, par le don de l'Esprit, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance, par un mystère terrible, se dérober. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. Paragraphe 309. Nous sommes bien là en face d'un mystère du mal, que saint Paul appelle le mystère de l'iniquité, donc pour une part à laquelle on peut donner le sens d'injustice, un mystère tout à fait injuste. Mystère donc qui reste pour une part inaccessible à notre intelligence, ce qui rend difficile la réponse à la question « pourquoi le mal ?» et mystère d'injustice au sens d'effroyable, parce que nous n'avons nous qu'une petite ampleur du mal et des conséquences que le mal provoque, que ce soit les conséquences naturelles ou que ce soit le mal que l'homme est capable de faire à l'homme. Je préciserai qu'il peut arriver aussi que l'homme soit responsable de son propre malheur. Nous avons quelquefois un comportement dont nous sommes responsables plus ou moins. Ça, c'est un des tas d'éléments qui déterminent la part de responsabilité, mais nous sommes responsables de notre propre malheur par les choix que nous faisons. J'aurais pu vous lire un paragraphe du Père Carré, mais je passe. Petit b, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles. C'est une phrase qu'on entend quand Jésus vient à Nazareth, dans son village d'origine, et là, il nous est dit, alors que Jésus est venu pour mener le combat contre le mal, que dès son ministère public, il a entamé ce combat contre le mal en se laissant conduire par l'esprit au désert pour lutter contre Satan, que déjà il a vaincu le mal en étant vainqueur de Satan. Pourtant, Jésus n'a pas supprimé tout le mal, et en particulier, il y a des miracles qu'il n'a pas accomplis, l'Évangile nous dit, à cause de leur manque de foi. Donc Jésus n'est pas non plus un distributeur automatique auquel il faudrait qu'on présente un malade en lui comme on mettrait une pièce et on en tirerait. Il y a une relation d'homme à homme libre et amoureux qui doit s'instaurer entre Dieu et nous. Jésus dénonce chez les pharisiens et les légistes ce comportement par lequel ils ont annulé pour eux le dessein de Dieu, Luc 7, 30. Et on rencontre, on l'a eu il n'y a pas très longtemps dans un dimanche à la messe, dans l'évangile, ce lépreux qui s'agenouille devant Jésus et qui lui dit « Si tu le veux, tu peux me guérir ». Question étonnante, la question ne se pose pas de savoir s'il en est capable, mais s'il le veut. Si tu le veux, tu peux me guérir. Et on peut se demander pourquoi Jésus ne voudrait-il pas guérir ce lépreux. L'homme demande ce qui lui paraît à lui subjectivement bon, et Dieu donne ce qui est objectivement le meilleur pour lui. Jésus aurait pu avoir prévu pour ce lépreux quelque chose de meilleur que le lépreux n'aurait pas perçu sur le moment, quelque chose de meilleur que sa guérison physique. Il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à celui qui est capable d'un mal de tirer un bien encore plus grand. Je rappelle une phrase qu'il faut qu'on ait en permanence en tête, que le bien dans son ordre est infiniment plus puissant que le mal dans son ordre, mais que le mal fait du bruit et que le bien ne fait pas de bruit. Donc le mal nous saute aux yeux beaucoup plus que le bien, mais le bien est infiniment plus puissant dans son ordre que le mal. Quand vous priez, ne rabâchez pas, dit Jésus, c'est-à-dire que nous n'avons pas à enfermer Dieu dans notre demande. Je peux faire à Dieu une demande parfaitement légitime, mais Dieu n'est pas tenu de me le donner parce que je le lui ai demandé, même poliment. Le lépreux demande et laisse au Christ le soin de disposer. Et la prière n'est pas faite pour faire fléchir la volonté de Dieu et faire en sorte qu'il nous donne quelque chose qu'il n'aurait pas eu l'intention de nous donner, mais finalement pour nous faire vouloir ce que Dieu veut. C'est nous qui devons changer et pas Dieu. Pourquoi en serait-il ainsi? Parce que le Christ sait qu'il vient instaurer un régime nouveau où la souffrance ne sera plus l'impasse absolue, c'est-à-dire ce à quoi je peux au mieux me résigner et au pire contre lequel je me révolte, mais qui n'a aucun sens, et pour nous qui sommes quand même des êtres intelligents, une réalité qui n'a aucun sens, c'est l'absurde par excellence. Donc Jésus est venu faire en sorte que la souffrance ne soit plus l'impasse absolue, mais un passage. Lorsque Jésus aura fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant que le Père avait formé par avance dans le Christ, ça c'est du saint Paul, la souffrance ne sera plus un non-sens absolu, mais il sera possible de la retourner contre elle-même et de lui donner un sens, d'en faire un usage bénéfique. Petit c, ça me paraît très important ce qui va être dit maintenant. Dieu crée l'homme par amour et pour aimer. c'est l'homme seul qui a désobéi et qui s'est éloigné de Dieu, alors qu'il était averti. L'homme ne peut en aucun cas retourner vers Dieu, donc Dieu prend toute l'initiative d'envoyer son Fils et de parcourir en descendant ce mouvement que l'homme ne pouvait plus faire en remontant. Une fois sur terre, c'est Jésus qui prend l'initiative d'offrir sa vie en sacrifice et de donner, lui, l'innocence, sa vie pour tous les autres qui sont des pécheurs. Il donne sa vie et il ressuscite, et l'œuvre de rédemption est parfaitement accomplie. Il accomplit le salut d'une façon extraordinaire, et il n'y manque rien. Et c'est là qu'on peut admirer la délicatesse de Dieu, c'est qu'ayant fait tout le travail tout seul, gratuitement, sans qu'il n'y manque rien, et sans que rien ne puisse y être ajouté, il propose à l'homme de participer à l'œuvre du salut. Et pas seulement en disant « oui, je veux bien être sauvé », saint Augustin dit « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi », mais en étant aussi acteur de ce salut, en y apportant sa contribution. Comment cela ? J'allais dire qu'il permet à l'homme de prendre sa revanche sur le mal. Et ce mal qui anéantit l'homme, l'homme peut s'en servir pour retourner le mal contre lui et en tirer un plus grand bien. Ce mal qui blesse l'homme dans son corps, dans son esprit, dans son cœur et dans son âme, devient un moyen de guérison pour soi-même ou pour d'autres. Le Père Cantalamessa nous fait pressentir cela lorsqu'il écrit « Ressuscité des morts, le Christ a inauguré un nouveau type de plaisir, celui non pas qui précède la douleur comme étant sa cause, mais celui qui la suit en tant que fruit. » C'est ce mouvement qui permet à saint Paul de dire « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète ce qui manque aux tribulations du Christ en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Alors, il ne manque rien à la passion. Jésus a tout fait, tout donné, sans rien reprendre. Saint Thomas d'Aquin explique « En quoi peut-il manquer quelque chose à la passion du Christ ? Simplement d'avoir été vécu aussi par saint Paul. » Et comme il manque peut-être que nous participions à la passion du Christ. Et donc, saint Paul comprend que quand il est enfermé, mis en prison, quand on le lapide, quand on veut le jeter d'une falaise, quand il y a de la tempête ou quand il lui arrive tout ce qui lui arrive, il peut s'en servir comme d'une offrande pour lui-même ou pour ceux à qui il va annoncer le Christ. J'achève dans ma chair ce qu'il manque à la passion du Christ. Et la puissance de Dieu, c'est de permettre à l'homme de lui offrir à lui, Dieu, un mal, pour que de ce mal, Dieu en fasse un bien. Ainsi, le Christ, qui est le chemin, est passé par cette voie de la souffrance et de la mort pour en faire un passage et nous sortir de ce qui était pour nous, sans lui, une impasse, une absurdité. Simone Veil constate « L'extrême grandeur du christianisme vient de ce qui ne cherche pas un remède surnaturel contre la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance. » Je saute une citation de Claudel. Petit D, instauration de la communion des saints. Redisons-le une fois encore, ce n'est pas la souffrance du Christ qui a sauvé les hommes et le monde, c'est l'amour qu'il a mis jusque dans la souffrance. Le bienheureux Charles de Foucault écrit « Quand on veut souffrir et aimer, on peut beaucoup, on peut le plus qu'on puisse en ce monde. On sent qu'on souffre, on ne sent pas toujours qu'on aime, et c'est une grande souffrance de plus. » C'est très fin, ça, je trouve. Mais on sait qu'on voudrait aimer, et vouloir aimer, c'est aimer. On trouve qu'on n'aime pas assez, mais le bon Dieu, qui sait de quel bout il nous a pétris, et qui nous aime bien plus qu'une mère ne peut aimer son enfant, nous a dit, lui qui ne ment pas, qu'il ne repousserait pas celui qui vient à lui. Ainsi, nous agissons par amour et nous offrons nos souffrances. Beaucoup trouvent même leur joie à pouvoir offrir cette souffrance au Christ pour qu'il la féconde, lui qui peut d'un mal tirer un bien, et que cette souffrance rejaillisse en pluie de grâce pour ceux qui en ont besoin. Le Père Carré applique ça exactement aux deux larrons qui sont sur la croix autour de Jésus. Au calvaire, le Seigneur était entouré par deux condamnés de droit commun. Tous deux souffraient, tous deux allaient mourir. On nous invite à imiter le bon larron en nous tournant vers Jésus, et son exemple est bouleversant. Mais nous pouvons plus encore, nous pouvons mettre de l'amour dans l'agonie du fils rebelle, du larron qui blasphème, nous pouvons incorporer sa souffrance à la nôtre, au point d'oser répondre à Jésus qui nous annonce le paradis. « Oui, Seigneur, mais pas sans mon frère. Il est avec moi. Vous ne pouvez pas nous séparer. Seigneur, avec lui, le mauvais larron, avec lui, ce soir dans ton royaume. » Moi, je trouve ça fabuleux. La communion des saints, c'est d'abord la communion avec le saint. L'intérêt, ce n'est pas que nous soyons en communion les uns avec les autres, c'est que nous soyons en communion les uns avec les autres en passant par le cœur de Jésus. C'est ça qui change toute la réalité. Ce cœur a été ouvert sur la croix par le coup de lance, ce cœur s'est vidé, pour que tout dorénavant, toute communication entre le ciel et la terre passe par le cœur de Jésus. Voilà, celui qui de son vivant, avant même sa mort, à multiplier les cinq pains de façon à nourrir une foule nombreuse, peut maintenant, après sa mort, faire que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. C'est ce qu'on chante la vigile pascale dans l'Exultet, « Bienheureuse faute qui nous valut un tel sauveur et tout ce qu'il a apporté ». On connaît le mot de Claudel, « Le Fils de Dieu n'est pas venu pour détruire la souffrance, mais pour souffrir avec nous ». Il n'est pas venu détruire la croix, mais pour s'étendre dessus de tous les privilèges spécifiques de l'humanité, c'est celui-là que Dieu a choisi pour lui-même. Le Christ n'est pas venu expliquer la souffrance, il n'est pas venu la supprimer, il est venu la remplir de sa présence. On pourrait multiplier les témoignages de ceux qui ont fait de leur souffrance une joie parce qu'ils en faisaient quelque chose à offrir. Ils sentaient par là l'union qu'ils pouvaient avoir avec le Christ dans sa passion, c'est-à-dire au moment où il nous montre le plus qu'il nous aime, et ils avaient compris qu'ils pouvaient faire de cette souffrance un usage bénéfique en demandant au Seigneur de la féconder. Donc les témoignages, on pourrait en avoir plein. Deuxièmement, de ce grand 3, la force des larmes. Il y a certaines personnes qui pensent que les larmes, c'est un signe de faiblesse. Et on sait très bien que les larmes en soi ne veulent rien dire. Ça n'est pas « sois un homme, mon fils, et essuie tes larmes », parce qu'on peut être un homme et pleurer. Que le fait de ne pas pleurer n'est pas une absence de sensibilité. Chacun exprime sa sensibilité comme il est. Ça n'est évidemment pas une marque de faiblesse. Pourquoi pleure-t-on? Le Père Cantalamessa répond, je crois que nous ne devrions pas restreindre le champ à ces deux motifs. La voie la plus sûre pour découvrir quelles sont les larmes et l'affliction proclamées bienheureuses par le Christ est d'étudier pourquoi l'on pleure dans la Bible et pourquoi lui-même a pleuré dans l'Évangile. C'est ainsi que nous découvrons qu'il y a les larmes de repentance, comme celle de Pierre lors de sa trahison, pleurer avec ceux qui pleurent, c'est-à-dire la compassion pour la douleur d'autrui, comme Jésus pleura avec la veuve de Naïn et avec les sœurs de Lazare, les larmes des exilés qui languissent après leur patrie, comme celles des Hébreux au bord des fleuves de Babylone, et tant d'autres. Je saute un peu, mais à chaque... le Christ est venu consoler les larmes de tous ces cas de figure. Simplement, je dirais que la première que Jésus a voulu associer à cette mission, c'est la Vierge. qui il est annoncé dès qu'elle présente son enfant au temple à 40 jours que toi-même un glaive te transpercera l'âme. Donc Siméon annonce en même temps la croix et que Marie serait étroitement associée à la croix et que pendant qu'il y aurait la passion du fils, il y aurait la compassion de la mère, et ça va aller en s'accentuant tout au long du ministère public de Jésus. Saint Bernard imagine ce dialogue. Quelqu'un s'étonne que la Vierge pleure. Ne savait-elle pas d'avance que son fils devait mourir? Assurément. N'espérait-elle pas qu'il ressusciterait bientôt de toute son âme? Et malgré cela, elle pleurait au pied de la croix à chaudes larmes. Mais qui es-tu, mon frère? Et d'où te vient cette sagesse que la compassion de Marie trouble davantage que la passion de son fils? Marie endura la mort du cœur par une charité telle qu'il n'y en aura plus jamais de semblable. Donc ça n'est pas d'abord un mystère de souffrance, c'est d'abord un mystère de charité. On se souvient des larmes de Sainte Monique qui pendant 20 ans a pleuré pour la conversion de son fils Augustin. Le curé d'Ars au confessionnal qui, voyant un pénitent confesser ses péchés sans grand repentir, se met à pleurer. Et la personne lui demande « Mais pourquoi pleurez-vous ? » Il répond « Je pleure de ce que vous ne pleurez pas. » Il peut y avoir des larmes de joie aussi, qui sont bénies comme les autres. Nos larmes sont fécondes. Saint Augustin, petit b, appelle les larmes « le sang de l'âme ». Je passe rapidement pour la quatrième partie, grande partie, voir Dieu et vivre. Rien que cette béatitude soulève l'espérance. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. L'homme sait très bien qu'il ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Donc que Jésus lui promette de vivre et de voir Dieu est une espérance. Comment contempler alors que notre cœur n'est pas pur? Comment accueillir alors que notre cœur est fermé? Et c'est donc qu'il y a dans cette béatitude une promesse qui n'est pas simplement pour le futur, mais qui est déjà une promesse de guérison pour notre vie présente. Et cette espérance de quelque chose qui peut s'accomplir dans notre vie présente nous établit déjà dans la joie. Nous savons que l'homme ne peut plus voir Dieu à cause de son péché, qui a voilé son regard, qui a terni son âme, et l'âme de l'homme ne peut plus supporter l'éclat de la lumière divine. C'est dit dans l'Exode, Moïse demande à voir Dieu, l'homme ne peut pas voir Dieu et rester en vie, mais Dieu va accorder ce privilège un peu à Moïse, en lui disant « Je vais me mettre dans le rocher, quand je passerai, je mettrai ma main sur tes yeux, quand je serai passé, j'enlèverai ma main et tu me verras de dos. » Et ce privilège a été accordé un tout petit peu à Élie sur le mont Horeb, de la même façon mais d'une façon un peu cachée aussi. Et Moïse et Élie sont les deux qui sont autour de Jésus à la transfiguration et qui sont avec lui lorsque Jésus laisse transfigurer sa divinité. Mais on peut voir Dieu en Jésus parce qu'en Jésus, Dieu a voilé sa divinité à travers le voile de son humanité. En Jésus habite une lumière inaccessible que nul d'entre les hommes n'a vue ni ne peut voir. Et désormais, l'homme peut voir Dieu, d'abord être capable de reconnaître dans cet homme dont l'Évangile nous raconte la vie, qu'il est effectivement plus qu'un homme, puisqu'avant d'être un homme, il est le Fils éternel de Dieu. Le cœur pur nous donne un cœur contemplatif qui nous permet de voir Dieu dans ses pauvres. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors on le reconnaît ou on ne le reconnaît pas, mais on pourrait voir Dieu et donc être capable d'une plus grande charité encore en voyant le Christ présent dans leur âme. Un esprit pur peut contempler Dieu dans la splendeur de la vérité. Et Jésus dit « Je suis la vérité ». Donc il y a un lien entre la pureté de notre cœur et une intelligence déployée, qui peut se déployer parce qu'elle n'est pas arrêtée par l'impureté de notre cœur. une intelligence qui se soumet humblement au réel. C'est très d'actualité dans un monde où on vit dans le virtuel. Voilà, notre intelligence a accès à la vérité par le réel. D'abord le réel de ce que nous sommes, la réalité de ce que nous sommes, sans illusion et sans rêver que nous sommes autre quelqu'un d'autre que ce que nous sommes. Un regard pur qui voit la beauté extérieure, mais qui saura voir aussi, au-delà de l'apparence, la beauté intérieure. On peut penser que la beauté extérieure sera le reflet de la beauté intérieure. Un regard pur qui aime et qui rend encore plus beau parce qu'il aime. Peut-être je vous ai déjà raconté l'histoire de cette petite fille qui est assise sur le trottoir avec une poupée un peu ancienne, et elle est sale, il lui manque un œil, il lui manque un bras, mais c'est sa poupée qu'elle aime beaucoup. Et une personne pas très délicate passe, regarde la poupée, lui dit « mais elle est pas très jolie ta poupée ». Et l'enfant regarde la personne, regarde sa poupée, embrasse sa poupée, et maintenant n'est-ce pas qu'elle est belle ? Voilà, aimer embellit. C'est, paraît-il, Brigitte Bardot qui dit « Lorsqu'on ne m'aime pas, je désembellis. Mais je préfère ce que dit Cesbron, qui parle à propos de la pureté du cœur, de la transparence du cœur. Et il dit « Transparence, même s'il ne s'y trouve pas écrit, c'est le maître mot de cette béatitude où je vois l'application de deux ou trois lois de la physique élémentaire. Et d'abord celle-ci, que pour refléter le ciel, une eau n'a pas besoin d'être profonde, il suffit qu'elle soit pure. Ensuite, le principe de l'aimantation. Dieu attire les cœurs purs et un cœur pur attire Dieu. Rien dans un cœur pur ne s'oppose au passage des rayons. Non seulement il voit Dieu, mais on voit Dieu à travers lui. C'est même notre seule façon de le voir, dans le regard des saints, c'est-à-dire de ceux en qui il demeure. Diaphane, de plus en plus transparent, Charles de Foucault, Jean-Marie Vianney, la photographie en témoigne. Alors, ça m'amuse parce qu'il dit la photographie de Jean-Marie Vianney, les seules photos qu'on ait de Jean-Marie Vianney, ce sont des photos sur son lit de mort. Mais de fait, il est assez maigre, des diaphanes, mais donc, même mort, on voit Dieu. Et tous leurs compagnons. Et Gilbert Cesbron ajoute, on ne devrait leur élever que des statues de cristal. C'est joli ça. Bien, il lit ça à l'esprit d'enfance. Mais je m'arrête là. Il vous reste à peine quelques minutes pour poser éventuellement des questions. Pardon d'avoir été trop long, mais c'est ma faute finalement. Je n'ai pas réalisé qu'en associant deux béatitudes, je rendais la tâche encore plus difficile. Chapitre 1 et 2. Vous voulez exactement 1.13, je crois, et 2.21. Oui, oui, voilà. Pardon ? C'est, alors j'ai trouvé ça, je ne sais pas où, il faut que je les retrouve, madame. C'est tiré de la messe là-bas. Vos larmes et votre foi, votre sang avec le sien dans le calice, comme cela, comme le vin et l'eau qui est la matière de son sac. Pardon. C'est cela, comme le vin et l'eau, qui est la matière de son sacrifice. C'est cela qui rachète le monde avec lui, c'est cela dont il a soif et faim. Ayez pitié de lui qui n'a eu que 33 ans à souffrir, joignez votre passion à la sienne, puisqu'on ne peut qu'une fois mourir. Voilà, il nous offre de participer. Une question, choisissez-la bien. Oui, madame.
Vous avez dit à un moment donné que le Christ nous aide à remettre l'ordre et que l'esprit convient quand l'esprit n'est pas en mode.
Oui.
Et là, la suite, vous savez, je n'ai jamais compris la suite.
Alors, effectivement. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que. Je vous ai mis effectivement qu'une partie, je me suis arrêté là où ça m'arrangeait. La suite du texte, c'est un démon qui a pris la possession d'une âme, et puis qui en a été chassé par la puissance de la grâce, donc tout est remis en ordre, Et le démon qui erre partout et qui ne sait pas où aller revient furieux, mais comme il voit que c'est en ordre, tout seul il ne peut pas, donc il va revenir avec d'autres. Et le passage de l'Écriture dit effectivement qu'il reprend possession de cette âme et que le désordre sera encore plus grand après qu'avant. Mais il a pu reprendre possession de cette âme que parce que nous nous sommes endormis, que parce que nous avons compté sur nos forces sans aller chercher la grâce de Dieu qui est de toute façon toujours, qui sera toujours infiniment plus forte et plus grande que la multitude de démons réunis. Jésus tout seul peut dire « Combien êtes-vous ? Nous sommes légion et les chassés dans les pauvres. » Donc, dans le passage, ils sont revenus à plusieurs, reprenant possession de quelqu'un qui n'a pas été assez vigilant et qui s'est laissé, j'allais dire, posséder sans aller chercher la force de Dieu pour lutter. Non, ça n'est pas... Mais je vous remercie, madame, d'avoir posé une question pour laquelle j'avais une réponse. Merci beaucoup. Donc, dans un mois, c'est...